Exploration, gagner en XP dans le JV.
Vous savez ce qui est bien avec le fait de faire des chroniques le mercredi ? C'est qu'il s'agit du jour de la sortie des films au cinéma. Et vous savez ce qui sort aujourd'hui au cinéma ? Super Mario Bros. Le film. Mario, le plombier italien des japonais de Nintendo, a aujourd'hui le droit à une nouvelle adaptation sur le grand écran, 30 ans après un premier essai peu concluant, mais j'y reviendrai dans quelques minutes. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, même si dans les années 90 ce dernier était plus populaire auprès des enfants américains que Mickey Mouse, Mario, c'est une icône du jeu vidéo. Que dis-je, l'icône du jeu vidéo, avec un autre petit gars là, j'ai plus son nom.
Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man.
Ah oui, voilà, merci à William Lémergy, ancien présentateur de Télématin. Mais bref, pardon, revenons à Mario. Notre plombier voit le jour en 1981 d'un problème d'ayant droit. En effet, le jeune développeur Shigeru Miyamoto souhaitait concevoir un jeu basé sur l'univers de Popeye. Nous incarnions le matelot devant secourir la belle Olive, retenue prisonnière tout en haut d'un échafaudage par le grand méchant Brutus. Popeye devait alors grimper tout en évitant les tonneaux envoyés par ce dernier. Cependant, il y a un hic. Nintendo n'obtiendra pas les droits de Popeye et devra imaginer de tout nouveaux personnages. Ainsi vont naître Donkey Kong, Lady, qui prendra plus tard le nom de Pauline, et Jumpman, qui deviendra Mario en 1985 avec le tout premier Super Mario Bros. Ce jeu sera la base, aussi bien en termes de scénario que mécaniquement, du reste de la série. L'intrigue peut se résumer de cette façon. Mario, un plombier, doit sauver la princesse d'une créature anthropomorphique en parcourant plusieurs mondes, pouvant avoir des thématiques différentes. Le choix d'en faire un plombier n'est d'ailleurs pas anodin. Lors d'une interview accordée le 15 septembre 2020 à CNN Business, son créateur s'explique sur la raison d'un tel choix. « Nous voulions qu'il soit quelqu'un qui pourrait vivre près de chez vous, et non un super-héros. » Avec plus d'une cinquantaine de titres se déroulant dans son univers, il est désormais impossible de penser le jeu vidéo sans ce petit plombier moustachu à la salopette bleue et à la casquette rouge. Ayant apporté joie, mais également frustration à plusieurs générations de joueurs et de joueuses, il a marqué d'un grand M toute la culture populaire et est aujourd'hui le personnage de jeu vidéo le plus apprécié du monde entier. Mario, c'est aussi une mascotte, celle de Nintendo, un des fabricants historiques de consoles et de jeux qui reste, malgré tous leurs déboires, le numéro 1 dans le cœur de nombreux joueurs et joueuses. Ma comparaison avec Mickey et Pluto n'était d'ailleurs pas anodine puisqu'ils partagent un point commun, ils possèdent tous les deux des parcs d'attractions à leur gloire. Bon alors, techniquement, les parcs sont à la gloire des franchises des deux entreprises les possédant, Disney et Nintendo, mais il s'agisse tout de même des porte-étendards. Alors, je ne doute pas que vous ayez entendu parler des parcs Disney. Après tout, Disneyland Paris fait de la France la première destination touristique au monde, mais pour ce qui est des Super Nintendo World, les parcs Nintendo, là, moins sûr que vous les connaissiez. Et pour cause, ces derniers ne sont pas des parcs à part entière, mais des zones à thème des parcs Universal Studios d'Hollywood aux États-Unis et d'Osaka au Japon. C'est-à-dire qu'il existe un endroit où vous pouvez visiter Poudlard, l'école de magie d'Harry Potter, pendant une heure, puis vous marchez un peu, vous prenez deux escalators et vous voilà au royaume champignon de Mario. C'est fou, mais c'est bien ce que proposent ces parcs d'attractions où Mario et ses amis sont des stars. Des stars qui vont donc avoir le droit à leur film d'animation réalisé par Illumination Entertainment, studio connu pour avoir fait les films Moi moche et méchant et ses spin-offs Les Mignons, ou encore les films tous en scène et comme des bêtes. D'ailleurs, c'est quand même terrifiant de se dire que leur meilleur film est leur tout premier et que plus ils en sortent, plus cela s'empire. Cela dit, les premières critiques du film Mario sont tombées. Et apparemment, ce dernier divise la critique, mais semble faire plaisir aux fans. Et cela sûrement grâce à Shigeru Miyamoto et Nintendo, qui sont connus pour faire peu de concessions sur leur propriété intellectuelle. Ceci dit, à une époque, Nintendo en a fait des concessions. En effet, en 1993, ils fournissaient leur licence à Rocky Morton et Annabelle Jenkel pour faire de la figure du plombier moustachu un film d'aventure en prise de vue réelle. Bon, et si vous ne connaissez pas ce film, je vous expliquer pourquoi.
Cinémal.
What a story, Mark.
Je ne me laisserai jamais manipuler. voulez vous adresser à moi. Essayez plutôt de causer à mes burnes.
Alexandre n'est pas là, alors je vous offre un cinémal dans Exploration pour vous parler de Super Mario Bros. Film d'aventure et de science-fiction dystopique. Dystopique, oui, nous sommes bien loin de l'utopie que semble présenter l'univers de notre icône. Dans ce film, Mario, interprété par Bob Hoskins, que les gens connaissent surtout pour avoir joué dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, et son frère Luigi sont deux plombiers de Brooklyn. Toujours pas de vanne, hein, ce long métrage existe. Ils vont se retrouver téléportés dans un monde parallèle peuplé de dinosaures humanoïdes afin de retrouver Daisy, une étudiante en archéologie dont Luigi est amoureux. Alors oui, cette fois-ci, nos héros vont sauver Daisy et pas Peach comme dans les jeux, va savoir. Pourquoi. Daisy a été capturée par l'infâme Koopa, nom japonais de Bowser, qui est ici interprété par Dennis Hopper, une figure du cinéma, surtout connue pour son rôle du journaliste dans Apocalypse Now. Hopper nous offre une interprétation absolument dingue du méchant iconique de Mario, avec des phrases comme
« Grosse nouille !»
ou encore
« Je te préviens, je te pèterai la gueule à la récréation !»
et bien évidemment le cultissime
« Où est ma pita ?»
Bon alors, vous connaissez un peu l'univers de Mario ? Ben, oubliez-le, hein. Le monde parallèle s'appelle Dinoatan et s'inspire plus d'œuvres comme Blade Runner ou 1984. En effet, le principe, c'est que les deux frères Mario, car oui, c'est aussi leur nom de famille, s'opposent donc à Koopa, chef d'entreprise militariste et dictateur de Dinoatan. Koopa contrôle les médias, interdit toute forme d'art visant à contester son pouvoir et utilise une force de police privée pour réprimander son peuple.
Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Tyran assoiffé de pouvoir, Koopa capture ainsi Daisy, car il s'agit en réalité d'une princesse abandonnée par sa mère à la naissance et qui possède une pierre pouvant faire fusionner la Terre et Dinoatan. Ainsi, notre presque parodie de fasciste en puissance souhaite régner sur les deux mondes. Bon, le problème, c'est que les larbins de notre méchant ont mal fait leur boulot et ramènent Daisy, mais pas la pierre que Luigi a récupérée à la dernière minute. Ceci dit, les deux frères plombiers partent à la rescousse de la princesse. Ils vont faire la rencontre de différents personnages du jeu, comme Todd, vous savez, ces petits personnages mignons en forme de champignons qui parlent comme ça. Ici, Todd est devenu un troubadour qui joue de la musique dans la rue comme un étudiant de la Maison des Arts de Bordeaux-Montagne. Mais comme je l'ai dit, Koopa n'est pas fan des artistes à la coupe de cheveux douteuse. Je parle de Todd, hein, pas d'Esmeralda en licence musique à la fac. Nos héros finissent dès lors en tôle avant de s'échapper en volant un véhicule de police auquel ils vont foutre le feu. Ah, attendez, je crois qu'on a retrouvé le chef de la police qui souhaite s'exprimer.
Comme vous, je voudrais avoir un mot pour ces 394 policiers et gendarmes blessés. Et je veux d'ailleurs dire aujourd'hui qu'il n'est pas dans l'état de droit de s'en prendre à des bâtiments publics, de mettre le feu à des préfectures, de jeter des cocktails Molotov sur les gendarmes et sur les policiers. Et je vous remercie de soutenir ces personnes qui sont de véritables ouvriers de la sécurité.
Allez, c'est bon, là c'est entendu lui. Bon, par la suite, ils vont dans un bar à striptease. Oui, c'est un film Mario et je vais vous accélérer le délire parce que j'ai pas que ça qu'à faire. Les deux mondes fusionnent puis défusionnent. Mario et Luigi battent Koopa. Daisy décide de rester à Dinoatan pour améliorer les choses avant de finalement revenir à la fin du film pour annoncer une suite qui n'aura jamais lieu car ce film est une catastrophe aussi bien critique qu'au box-office, d'autant que deux semaines après sort Jurassic Park. Bon voilà, et là vous devez vous dire, heureusement qu'il y a une nouvelle adaptation cinématographique. Alors, si vous voulez une retranscription fidèle, entre guillemets, oui. Mais, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, ce long métrage est intéressant. En effet, pourquoi malgré le four énorme qu'est cette production, Nintendo a tout de même souhaité refaire un film ? C'est une question que s'est posée Madeleine Blondeau dans un article pour le magazine Paste, intitulé « Le nouveau film Super Mario Bros. Embrasse la dystopie dont le film Super Mario Bros. De 1993 nous mettait en garde ». Pour elle, Super Mario Bros. Est un film sombre et effrayant, centré sur les horreurs des monopoles capitalistes. En effet, tout le long du film, Dinoatan nous est montré comme atroce, et ça en appuyant fortement sur la destruction écologique causée par le développement excessif de Koopa. Cette destruction est visible au travers des champignons, pourtant iconiques de Mario, qui ne sont ici que des petites excroissances gluantes. Dans un sens, l'œuvre affirme que la croissance et l'uniformité des modes de pensée induites par le capital sont néfastes pour les individus. Elle réalise alors une comparaison entre la firme Kyoto Hit, désormais dirigée par Miyamoto, et encore et toujours Disney. Ainsi, le film Mario vient ici vendre la magie Nintendo en proposant une production intrinsèquement corporative destinée à vendre des jeux vidéo. Je cite « C'est ainsi que Nintendo entend faire progresser sa propre magie, entre guillemets, à l'aube de la nouvelle décennie, des clips vidéo et des parcs à thème qui augmentent la valeur potentielle et la notoriété d'une propriété intellectuelle. » Pour Blondeau, Super Mario Bros. Le film et les parcs à thème qui l'accompagnent, sont le même type d'entreprise dont Rocky Morton et Annabelle Jenkel ont essayé de nous mettre en garde. Un divertissement facile et reconnaissable au service d'une entité plus vaste, une ville de béton stérile où la vie naturelle est étouffée. Des figures de proue auxquelles nous faisons aveuglément confiance pour nous amuser et ne pas nous faire de mal. Mais qui représente l'avancée de la stagnation culturelle ? Dans 20 ans, le film Super Mario Bros. Ne sera peut-être rien d'autre que la promotion d'un parc à thème vieillissant, une autre monstruosité en béton, soutenue par une alimentation au goutte à goutte de moments mémorables entre guillemets. Un gris froid et insensible où le moindre champignon est arraché avant qu'il ne puisse pousser à travers les fissures. Voilà, c'est un article très intéressant que je vous invite à aller lire. Mario, par son succès commercial et critique, est définitivement une icône nostalgique, et cela encore plus à notre époque où nous ne cessons de faire référence aux années 80, 90 et désormais 2000.